Il est 8h.
Un nouveau salarié qui est arrivé récemment. J'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement.
C'est la deuxième secousse de la révolution télétravail. Elle a déjà changé le quotidien des salariés. Voilà que des recruteurs embauchent sans se demander où habite le candidat. Au passage, on paye moins cher quelqu'un qui vit loin de Paris. C'est le dossier d'Europe 1 dans quelques secondes. Il veut renverser le gouvernement français, suspendre les impôts, démanteler la 5G. Le profil ahurissant de l'homme exilé en Malaisie et qui semble avoir inspiré les ravisseurs de la petite Mia la semaine dernière. Et puis, que vaut vraiment le projet de Super League de football ? Nous serons dans ce journal avec Charles Villeneuve, ancien président du PSG, ancien patron des sports de TF1 également. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron a lancé une offensive sur le thème de la sécurité. Pour lui répondre ce matin, le candidat à la présidentielle et président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, c'est sûr, la campagne est partie. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Comme souvent, le vent de la nouveauté est venu par les États-Unis, côte ouest, San Francisco, l'univers des start-up et des GAFA, où l'on s'arrache des ingénieurs aux têtes bien faites et à qui l'on doit payer un loyer exorbitant dans cette Silicon Valley surpeuplée. Le télétravail, ou home office, comme on dit sur place, a tout changé. C'est en train d'arriver en France et la révolution, ça n'est pas de constater que les bureaux sont vides ou qu'il faut s'équiper d'un bon fauteuil à la maison. Le recrutement voit des possibilités nouvelles.
Et on va comprendre comment avec vous, Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Maude.
Bonjour.
Les entreprises françaises recrutent désormais bien au-delà de leur bassin géographique habituel.
Oui, le phénomène est relativement récent, mais je vais vous donner un exemple concret. Arnold Zéphir est PDG d'une entreprise de 50 salariés dans le numérique à Paris. Depuis quelques mois, il a complètement changé ses habitudes de recrutement.
On a un nouveau salarié qui est arrivé récemment. J'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement, en fait. Je me souviens qu'il y a 2 ans environ, on avait eu une phase de recrutement et on avait refusé un candidat qui était à Carcassonne. Il était bon, c'était quelqu'un qui collait très bien au poste, mais on s'est dit « Ah non, il pourrait venir qu'une journée par semaine, c'est embêtant et tout ». Maintenant, on se pose plus la question.
Voilà, et pour ce PDG, recruter loin de son siège, ça lui permet surtout d'aller chercher de nouvelles compétences.
On arrive à recruter des profils un peu plus expérimentés. Ouais, on l'a bien vu, le phénomène que des ingénieurs ou des commerciaux très expérimentés, on va dire de 45-50 ans, qui sont partis en province, maintenant, on peut se permettre de les embaucher, alors que, effectivement, c'est des gens qu'on trouvait à Paris qu'à des prix... ils existent toujours, mais... ceux qui étaient restés sur Paris étaient à des prix déraisonnables pour une société comme la nôtre.
Et ça marche aussi pour des entreprises de province, hein, qui vont pouvoir recruter des profils bien spécifiques. Une entreprise dans un cadre industriel dans les Hauts-de-France, par exemple, va pouvoir recruter un salarié qui habite dans le Morbihan ou sur la Côte-Basque sans devoir le convaincre de déménager.
Et alors ce qu'on comprend aussi, Maud, c'est qu'il y a aussi un intérêt économique à recruter en province quand on est une entreprise basée à Paris.
Oui, alors ça c'est ce qu'observe David Beaurepaire, directeur délégué du cabinet de recrutement Hello Work.
Très probablement ça va avoir un impact sur les salaires. On est sur des choses qui sont de l'ordre de 10 à 15% en deçà des salaires qui peuvent être pratiqués en Ile-de-France. Après, derrière, il faut bien prendre en compte qu'il y a des frais de déplacement. Donc, qui va prendre en charge ces frais de déplacement si vous habitez à Marseille et vous devez vous rendre sur votre lieu de travail 2, 3, 4 fois par mois qui est basé en Ile-de-France.
Le phénomène a donc ses limites et les entreprises prêtes à passer à 100% de télétravail sont rares. Les grosses sociétés comme Twitter ou Amazon qui avaient opté pour ce fonctionnement et permis à certains salariés de travailler depuis l'autre bout du monde sont en train de revenir dessus et privilégier quelques jours de présence au travail.
Maude Descamps du service économie de la rédaction qui signe ce dossier ce matin et à propos de ce que la crise sanitaire bouleverse, ce rendez-vous sur Europe 1, la France bouge de 13h à 14h. Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag reçoivent notamment le fondateur de Covid List, ce système de liste d'attente qui évite de gâcher des doses de vaccins. 8h04 sur Europe 1.
Ce rebondissement dans l'affaire de la petite Mia, 8 ans, enlevée la semaine dernière dans les Vosges, retrouvée en Suisse dimanche, un Français de 55 ans, ancienne figure politique en Haute-Garonne, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international selon le journal Le Parisien. Il est soupçonné d'avoir influencé, voire financé les ravisseurs.
Et alors qui est ce nouveau protagoniste ? Nicolas Feldman s'est penché sur les traces qu'il laisse ouvertement sur Internet.
Oui, j'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays.
Ces vidéos, c'est l'image que Rémi Daïev-Widmann veut donner de lui. Un conquérant, costume sombre sur fond noir, le quinquagénaire énonce son plan pour un coup d'État pacifique et populaire, jamais très loin du complotisme contre la 5G. Pour la sortie de la France, de l'Europe, il se présente comme un homme de décision. Et c'est d'ailleurs par la politique que tout a commencé. Dans les années 2000, il rejoint la direction du Modem en Haute-Garonne. Le député Jean-Luc Laglaise se souvient.
C'est un garçon qui avait la parole facile, qui était très mythomane, qui avait très envie d'être brillant. Je sais qu'il avait l'intention de se présenter à la présidence nationale du Modem et pour essayer d'embêter François Bayrou, il avait enregistré un conseil national en essayant de faire du chantage, mais bon, c'était dans sa folie.
Et trop extrême, trop mégalo, il est exclu du parti. Mais Rémi Daïev-Widmann poursuit son combat sur les réseaux sociaux et y développe un prosélytisme complotiste. L'un de ses combats, mettre fin, dit-il, au placement abusif d'enfants. Alors est-ce dans ce cadre qu'il est impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia? Et si oui, de quelle manière? Son nom serait en tout cas cité par plusieurs des mises en cause.
Nicolas Feldman, mortier, pétard et jet de projectiles sur les policiers. Le quartier de la Croix-Rouge à Tourcoing est le théâtre de violences urbaines depuis samedi soir.
Oui, Tourcoing, c'est la ville dont Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a été le maire jusqu'à l'été dernier. Ville qui faisait peu parler d'elle pour ce genre d'actualité. Alors que se passe-t-il sur place? Europe 1 a voulu s'en rendre compte directement sur le terrain. C'est un reportage de Jean-Jacques Herry.
Au sol, une marque noire rappelle qu'ici, samedi soir, une voiture a brûlé. Pourtant, la Croix-Rouge n'a rien d'une zone de non-droit. Selon les jeunes, tout est parti d'une interpellation lors d'un rodéo sauvage. Le mot bavure est sur toutes les lèvres.
On avait un ami à nous qui était en moto. Il était sur l'herbe, il était à l'arrêt. Et il y a un camion de CRS qui a fait exprès de le taper.
Il s'est passé une bavure policière, ça n'a rien à voir avec le stupéfiant.
C'est pourtant ce que disent la mairie de Tourcoing et la police. Elles estiment que leurs actions dérangent le trafic de drogue et que c'est cela qui pourrait être à l'origine de la flambée de violence. Mais au pied des immeubles, tout n'est pas aussi clair. Ce qui apparaît le plus crûment, c'est la difficulté du dialogue entre une police qui patrouille en voiture et des jeunes qui s'estiment sous pression avec des confinements et un couvre-feu qui n'ont rien arrangé.
Et la police, je ne sais pas bien ce qu'ils font. Ils nous voient, on squatte. Voyons faire un mal, on n'embête personne, ils viennent, ils nous verbalisent des 135 euros, ça parle mal, ça nous insulte. Voyons, on commence à en avoir ras-le-bol.
De là à balancer des mortiers, interroge alors un ancien médiateur respecté dans le quartier. Vous empêchez tout le monde de dormir, sermonnent-ils les jeunes qui baissent les yeux. Ils se sentent délaissés, la mairie n'aide pas les quartiers, dit-il. Il n'y a plus rien pour eux, même le club de foot de la S Virolois Croix-Rouge, il n'existe plus depuis 6 ans. Tourcoing, Jean-Jacques Herry. Europe 1.
L'actualité internationale, c'est l'Allemagne ce matin. On va sans doute devoir apprendre à connaître son nom, Armin Laschet. D'ailleurs, il va devoir travailler sa popularité. C'est lui que la CDU, le parti chrétien-démocrate, a confirmé comme étant le successeur d'Angela Merkel s'il gagne les élections de septembre.
Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
En ligne de Berlin pour Europe 1. Après 8 jours de guerre fratricide dans ce parti, la CDU semble en miettes.
Effectivement, le Merkelien arrive en lambeaux après cette séquence. Quelle ironie pour Armin Laschet qui a été élu président du parti en janvier seulement, justement pour ses capacités de rassembleur. C'est un modéré et encore, ce n'est pas la fin du suspense. Il faut que l'autre prétendant au trône de chancelier, le bavarois Söder, accepte le vote de cette nuit. Alors certes, les divisions dans la famille conservatrice allemande, les guerres d'égo entre les présidents de région, ce n'est pas nouveau. Mais depuis 20 ans, à un moment donné, il y avait toujours Merkel pour siffler la fin de la récréation. Cette nuit, elle a assisté à cette réunion de crise pendant 7 heures. Elle n'a pas ouvert la bouche. C'est désastreux pour le parti qui, évidemment, comptait surfer sur sa popularité. En fait, derrière l'arbre Merkel, eh bien, il n'y a pas de forêt. Le parti n'a rien à proposer et n'a pas de leader naturel.
Oui, alors Hélène, cette division, à qui est-ce qu'elle peut profiter ?
À ce stade de la campagne, soyons prudents, clairement aux Verts, qui sont deuxièmes dans les sondages et qui ont offert hier un contraste éclatant en nommant une candidate pas forcément populaire, mais reconnue au-delà de sa famille politique pour sa grande compétence. C'est une juriste de centre-gauche, posée et ambitieuse. Oui, il y a du Merkel dans cette Annalena Baerbock, 40 ans, qui jouera forcément un rôle dans les prochaines années en Allemagne.
Hélène Kohl, en ligne de Berlin pour Europe 1.
16 années hein, d'Angela Merkel en Allemagne. Rien de comparable avec nos quinquennats français de 5 ans et rien de comparable avec le Tchad où lui est président depuis le 2 décembre 1990. Idriss Déby réélu à la tête du Tchad dès le premier tour avec 79% des voix, résultat annoncé, tandis que l'armée tchadienne affirme avoir maté une rébellion et tué 300 ennemis. Sur le papier, elle est super, cette Super League de football. Projet de 12 équipes européennes mythiques. Mais hier, on a surtout assisté à un festival de tacles contre l'idée même d'un club privé entre grands noms du ballon rond, d'Emmanuel Macron à Boris Johnson. Même les supporters concernés à Chelsea dénoncent la trahison ultime, tandis que ceux d'Arsenal critiquent un projet qui représente la mort de tout ce que le football devrait être selon leur fondation.
Quant à la grande UEFA, l'Union Européenne du Foot, son président Alexander Seferin est très amer, écoutez.
Il est difficile de croire le niveau d'immoralité de certaines personnes. Le football ne sera pas vendu à ce que j'appelle la sale douzaine.
Bonjour Charles Villeneuve.
Bonjour Mathieu.
Grande voix d'Europe 1, vous avez été président du PSG, directeur des sports du groupe TF1. Je ne cite que ces deux lignes de votre CV puisqu'elles vous donnent un regard unique sur ce projet de Super League. D'abord, pourquoi est-ce que le PSG n'y va pas selon vous ?
Pour une raison très simple, le Paris Saint-Germain a des dirigeants qui appartiennent quasiment, ils sont liés à l'État qatarien, et le Qatar organise la prochaine Coupe du Monde de football. Elle est de toute façon supervisée par la FIFA, la Fédération Internationale, qui a réagi de manière très rapide et très ferme, comme l'UEFA, qui supervise évidemment le football européen et notamment la Champions League. Et dès lors, ils ne vont pas se mettre à dos la FIFA pour aller avec 12 clubs qui ont fait sécession ou qui tentent de faire sécession.
Ah, justement, vous dites qu'ils tentent de faire sécession, ces clubs, Charles Villeneuve, ils ne vont pas réussir ?
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont mal partis. D'abord, on ne peut pas se passer de l'Allemagne, et notamment, évidemment, du Bayern. Et je crois que celui qui mène le bal dans cette affaire, c'est le président du Real, le Florentino Pérez. Il m'en avait parlé, j'avais déjeuné avec Zidane et Florentino Pérez il y a un an, et il m'avait de toute façon dit qu'il avait un moyen de pression par rapport à la Super League. Il m'avait parlé de ce projet. Et je lui avais pari au nez, parce que je respecte évidemment Florentino Pérez, mais je lui ai rappelé qu'en 2008, quand j'étais président du PSG, j'avais participé à une réunion et qu'il n'était pas question pour le PSG de s'y joindre.
Alors Charles Villeneuve, après vos déjeuners avec Zidane, vous avez, depuis aussi. L'an dernier, dans le passé, vous avez aussi été donc dirigeant de TF1. Justement, les diffuseurs ont un rôle à jouer dans ce psychodrame du foot mondial.
Bien sûr, parce que c'est eux qui payent. Il ne faut pas oublier, ouais. C'est eux qui payent les droits. Et ça, c'est la raison pour laquelle les super clubs, ces 12 clubs, ne veulent pas continuer. C'est qu'ils ont deux charges. D'abord, un, ils considèrent que l'UEFA se goinfre, passez-moi le mot, c'est-à-dire ramasse beaucoup d'argent avec les droits et n'en reverse qu'une partie. Et deuxièmement, avec le fair play financier, qui est une menace aussi, alors qu'ils dépensent un argent fou, avec des salaires fous, de plus en plus. Et par-dessus le marché, ils sont surveillés par un fisc délégué par l'UEFA. Et ça, ils n'en veulent plus.
Merci Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1 et acteur historique du sport, on l'a bien noté.
Facebook innove pour garder ses 2 milliards d'utilisateurs. Le géant américain s'apprête à intégrer la lecture de podcasts directement dans son application mobile. Et puis si vous êtes plus amateur de tradition mais quand même connecté, sachez qu'un nouveau film d'Anton Abbey est en préparation. On y retrouvera tous les acteurs de cette série célèbre pour son atmosphère de noblesse britannique avec domestique et problèmes d'héritage. Maggie Smith, 86 ans, est bien sûr de la partie.
Je sens qu'on a un fan
McGonagall dans Harry Potter.
Ouais, François Geffrier, c'était le journal de 8h. Merci François, très bon réveil à tous, 8h13.